Vous écoutez
RMC.
7h59 et c'est encore très agité du côté du ciel, Géraldine.
Et oui, alors particulièrement, ça va être le cas sur la Bretagne aujourd'hui. Vigilance orange sur le Finistère et le Morbihan pour des pluies qui vont arriver dans le courant de la journée. Et on reste quand même aussi en vigilance orange pour les crues des basses plaines de l'Aude. Il pleut encore pas mal ce matin du côté de l'Occitanie, du côté de la Corse aussi. Ça va se calmer progressivement dans la journée. Attention au risque d'avalanche qui reste quand même très marqué sur la Corse. Et puis donc, ces fortes pluies qui vont arriver en Bretagne avec beaucoup de vent. Ailleurs, ce sera plus calme. On aura même des éclaircies vers l'Atlantique, mais aussi vers l'Alsace, la Lorraine, jusqu'à la Côte d'Azur. Température toujours très contrastée entre le nord-est, où il fait froid, et l'ouest, où il fait beaucoup plus doux. On aura 2 degrés seulement à Nancy et Strasbourg cet après-midi, 5 à Lyon, 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à Bordeaux, 16 pour Marseille ou Nice.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump fait du Donald Trump plus que jamais ce matin avec des sorties fracassantes. Il s'en prend, vous allez l'entendre, à Emmanuel Macron. Il menace la France de nouveaux droits de douane de 200% cette fois sur le vin et le champagne. Et il révèle des messages échangés avec le président français. On va prendre le temps de tout vous détailler. Nouvelle manifestation des agriculteurs aujourd'hui autour du Parlement européen de Strasbourg. Barreau d'honneur contre le Mercosur. Et puis début de 3 jours de deuil national en Espagne qui cherche toujours à comprendre ce qu'a provoqué la terrible collision entre 2 trains, collision qui a fait 40 morts.
Il faut s'accrocher pour suivre toutes les sorties de Donald Trump qui, ce matin, menace à nouveau la France.
Oui, le président américain a pris la parole avant de monter dans l'avion pour se rendre au Forum économique de Davos qui commence en Suisse aujourd'hui. Romain Houg, on va prendre le temps de tout détailler avec vous ce matin sur RMC. Il est visiblement très en colère contre la France qui contrarie ses plans puisque Donald Trump a une nouvelle idée en tête, c'est de créer un conseil de paix pour concurrencer les Nations Unies.
Oui, en fait, ce serait une instance de gouvernance internationale pour gérer les conflits et les affaires du monde, un peu comme un ONU bis, mais présidé par Donald Trump. Pour qu'un État puisse y siéger de manière permanente, c'est simple, c'est à la Trump, il suffit de débourser $1 milliard. Alors, de nombreux pays ont reçu une invitation à rejoindre ce conseil, dont la Russie, de Vladimir Poutine. Certains, comme le Maroc et la Hongrie, ont déjà accepté. D'autres sont plus réticents, c'est le cas de la France. Emmanuel Macron a décliné et rappelé son attachement à la Charte des Nations Unies. Réaction immédiate de Donald Trump cette nuit. Ah oui, il a dit ça ? Vous savez, personne ne l'écoute, il ne sera plus en poste d'ici peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200% de taxes sur leur vin et leur champagne, et vous verrez qu'il viendra. Ce matin, l'entourage d'Emmanuel Macron évoque des menaces jugées inacceptables et inefficaces. Les acteurs de la filière viticole, eux, se réveillent en tout cas inquiets. Jean-Marie Fabre, président de la Confédération des vignerons indépendants, était sur RMC il y a quelques minutes et il l'explique. À chaque fois que les États-Unis ont appliqué des droits de douane sur la filière, directement, les ventes ont chuté eh bien, de 15 à 25%. Nos entreprises ne peuvent pas être en permanence sous la menace de Donald Trump, ajoute-t-il.
Alors, il y a le fond et puis il y a la forme aussi. Donald Trump déteste qu'on lui résiste à tel point qu'il publie sur son réseau social des messages échangés avec Emmanuel Macron. Et c'est peut-être bien une première entre deux dirigeants de grande puissance.
Oui, cet échange privé est réel, confirme l'entourage d'Emmanuel Macron ce matin. 2 messages envoyés donc par Emmanuel Macron. « Je ne comprends pas ce que tu fais sur le Groenland », lui écrit le président français avant de lui proposer d'organiser un G7 à Paris jeudi après-midi. Donald Trump, de son côté, continue d'accentuer la pression sur les Européens au sujet du Groenland et assure qu'il ne résiste n'existeront pas à son projet d'annexion, comme l'illustre ce photomontage publié lui aussi il y a quelques minutes et sur lequel on le voit planter un drapeau américain sur le territoire groenlandais.
Voilà donc pour toutes les sorties fracassantes cette nuit signée Donald Trump. Voilà dans quel contexte commence le forum économique de Davos en Suisse. Emmanuel Macron doit y passer la journée et Donald Trump y est attendu demain. Nous sommes au matin, ce mardi, d'une nouvelle manifestation de centaines d'agriculteurs à Strasbourg pour continuer le combat, tenter de bloquer le traité qu'on a avec le Mercosur. Ce qu'explique ce matin dans le journal Le Figaro, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, syndicat à l'origine de cette manifestation autour du Parlement européen. Donc pourquoi cet endroit ? Eh bien parce que les députés européens doivent voter et un vote majoritairement contre aurait pour effet eh bien de geler le processus de ratification. C'est le dernier espoir en fait, explique ce matin Gérard Lobert de la FNSEA, écoutez-le dans le Bas-Rhin.
On a déjà une partie de députés qui sont d'accord avec nos positions. Et puis, il y a toute une autre partie qui se tâte, je pense. C'est ça aussi notre travail, de convaincre un maximum de députés qui voteront dans le bon sens, de telle façon à ce que cet accord qui est néfaste pour l'agriculture française, que cet accord-là soit stoppé. Il y a ce dernier jeu à jouer. En fait, c'est cette pression qu'on veut mettre et c'est cette attente que nous avons, que les députés nous soutiennent dans cette protection de notre agriculture telle qu'on la connaît.
Et alors, puisqu'on parle du Parlement européen, ce sont deux journées très importantes qui commencent là au procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Marine Le Pen sera interrogée aujourd'hui et toute la journée de demain. Guillaume Bier, chef du service police justice à RMC, c'est vous qui allez suivre ces audiences. On sait que Marine Le Pen a légèrement infléchi sa stratégie de défense par rapport au premier procès, mais c'est quand même loin d'être gagné pour elle.
Effectivement, même si elle se montre moins frontale avec les juges et même si elle fait un pas vers l'accusation en reconnaissant à demi-mot qu'un délit a pu être commis, Marine Le Pen en conteste fermement le caractère intentionnel, comme ses coprévenus qui répètent ne pas avoir eu le sentiment ou la conscience d'être en infraction. Une stratégie qui vise à espérer une condamnation moins lourde, mais qui risque de se heurter aux multiples éléments à charge de ce dossier. Les directives de Marine Le Pen, les réunions, les échanges de courriels, les tableaux de financement des salaires de certains cadres du parti déclarés comme assistants européens. Bref, l'existence d'un système tel qu'il est reproché à Marine Le Pen et dont elle va une nouvelle fois se défendre face à une présidente de la Cour d'appel très pointue sur le dossier et qui ne laisse rien passer.
C'est cet après-midi que Sébastien Lecornu va finalement dégainer le 49-3 pour faire passer en force donc la partie recette du budget. Il sera sûrement amené à le faire à deux autres reprises, concédant à la fois un semi-échec et un semi-succès. Donc sur sa méthode, le RN et les Insoumis vont déposer des motions de censure. Le socialiste Olivier Faure confirme ce matin que son parti ne les votera pas. Pendant ce temps, c'est le projet de loi sur la fin de vie qui arrive enfin au Sénat, quasiment un an après son adoption à l'Assemblée. Le texte est divisé en deux, c'est une promesse, un engagement d'Emmanuel Macron. Les sénateurs comptent réécrire en profondeur la version des députés pour restreindre au maximum l'accès à l'aide à mourir. Vous allez tout nous expliquer, Solène Leroux. Là où les députés ont voté pour un droit à l'aide à mourir, les sénateurs veulent plutôt une assistance médicale à mourir.
Cette assistance médicale à mourir serait réservée aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Le temps d'étudier la demande, le malade sera peut-être déjà mort en souffrance, insurge Jonathan Denis, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
On pourrait se dire, enfin le Sénat concrétise le fait d'une aide à mourir, oui, mais dans une loi qui est rendue totalement inapplicable. Donc finalement, ce texte du Sénat ne sert absolument à rien.
Au contraire, assure le docteur Ségolène Perruccio, ce changement de terme va plus loin car il valide le principe d'un suicide assisté. Elle est présidente de la Société française des soins palliatifs.
Le Sénat inscrit encore plus le texte dans les pratiques de soins, dans la banalité du quotidien, de la relation soignant-soigné. On voit un Sénat qui fait totalement la sourde oreille à ce que disent la grande majorité des soignants. Donner la mort n'est pas un soin.
Défenseurs comme opposants, aussi insatisfaits soient-ils de ce texte, appellent à un débat le plus serein, apaisé possible, dans l'intérêt de patients qui attendent cette loi depuis des années.
Je vous le disais, trois jours de deuil national commencent ce matin en Espagne, au surlendemain de la collision de train qui a fait 40 morts et plus de 120 blessés dans la région de Cordoue, en Andalousie. La famille royale espagnole sera sur place aujourd'hui. C'est là que vous êtes, Rachel Sadodine, envoyée spéciale de RMC en direct ce matin. On cherche toujours à comprendre ce matin ce qui s'est passé.
Oui, déjà, ce n'est pas un problème de vitesse. Les deux trains roulaient en dessous de la limitation fixée à 250 km/h sur cette portion. Ensuite, le président de la RENFE, la compagnie ferroviaire espagnole, l'affirme, l'erreur humaine est pratiquement écartée. Reste donc la question de l'infrastructure. Cité par le journal espagnol El Mundo, des techniciens travaillant sur les lieux du sinistre à Adamus estiment qu'une rupture de la soudure du rail pourrait être une cause très probable du déraillement. Seulement voilà, selon le patron de la RENFE, la voie a été réparée en mai dernier. Compliqué de comprendre ce qui aurait pu donc causer une défaillance. Le train qui a déraillé était lui presque neuf, ce qui rend cet accident extrêmement étrange, de l'aveu même du ministre des Transports. Le gouvernement espagnol a promis aux familles de victimes une transparence absolue, elles qui pour beaucoup attendent toujours d'être fixées sur le sort de leurs proches. 43 signalements pour disparition ont été enregistrés. Je me trouve ce matin devant un centre où les familles de victimes ont pu passer la nuit, soutenues par des psychologues de la Croix-Rouge, pendant que des secouristes tentent encore de dégager des corps des trains accidentés à Adamus.
Et puis je vous signale qu'il y aura deux matchs de foot ce soir sur RMC. Paris-Monaco en Ligue des Champions, 21h. Le coup d'envoi, c'est l'avant-dernière journée de la phase de poule. Le PSG à Lisbonne chez le Sporting et Monaco à Madrid contre le Real.
C'était le journal de Quentin Vinet à 8h09 sur RMC. C'est l'heure de parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Pierre Rondeau, on connaît l'épargne des Français et le niveau d'épargne est plutôt bon.
Oui, cette étude réalisée par la banque, la néobanque Gringotte et relayée par Moneyvox établit un niveau moyen d'épargne annuel de 5 650 €, soit 470 € épargnés chaque mois. Au total, l'épargne financière des Français atteint la modique somme de 6 477 milliards €, une somme très importante, deux fois supérieure à celle de la dette publique, qui illustre surtout un sentiment d'incertitude et de crainte vis-à-vis de l'avenir. C'est parce que les Français ont peur qu'ils mettent de côté.
Ça paraît énorme en réalité, 470 € par mois. C'est une moyenne, il y a des disparités.
Évidemment, c'est une moyenne. Évidemment qu'il y a des très grandes disparités, surtout entre les territoires, entre les métropoles où l'épargne moyenne mensuelle se fixe à 597 € et dans les zones rurales avec une capacité d'épargne de 346 €. Rien qu'à Paris, on épargne 625 € par mois en moyenne, surtout parce que les revenus et la capacité d'épargne sont plus élevés qu'ailleurs. Par exemple, province Alpes-Côte d'Azur, l'épargne moyenne se monte à 458 €, plus qu'en centre Val-de-Loire ou en Normandie, avec une épargne moyenne de seulement 350 €.
On peut retenir globalement que l'épargne financière reste élevée.
Ça reste très élevé, surtout du côté des produits financiers très spécifiques, comme l'assurance vie, le plan épargne retraite, le PER, ou le plan épargne action, le PEA, qui voient leur versement augmenter en 2025. Mais je vais très certainement vous énerver, Apolline. Ces produits, contrairement au livret A ou au livret jeune, ne sont pas exonérés de ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, CRDS, CSG. Et le budget 2026, qui passera par l'utilisation du 49.3, a intégré une augmentation de ces prélèvements sociaux sur les revenus du capital, PER, PEA et l'épargne financière. Globalement, les prélèvements sociaux vont passer de 17,2 à 18,6% et la flat tax, la taxe sur les revenus du capital, passe de 30 à 31,4%. Donc voilà, pour résumer, les Français épargnent de plus en plus et ils sont taxés de plus en plus. C'est merveilleux.
C'est en fait la logique très française.
Voilà.
Merci Pierre Rondeau. 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30. L'invité du face-à-face, notez-le, c'est le député RN de la Somme, le monsieur budget du RN, Jean-Philippe Tanguy. Et juste après, comme chaque matin, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup, 8h50 sur RMC. Restez bien avec nous, il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h15 sur RMC et RMC Story. Et Arnaud Demanche déboule en courant dans ce studio. Salut Arnaud.
Oui, parce qu'on plaisante dans les couloirs voilà, et puis après, il faut quand même faire le travail. Bonjour. D'autant qu'on a une mauvaise nouvelle ce matin. Hein? Ça y est, on va avoir un budget. C'est fini cette grande saga que nous peignons avec malice, vous et moi, Pauline, chaque matin. Terminé les chroniques de Budget Stone, cette série où chaque épisode était plus chiant que le précédent.
Dans le dernier épisode des chroniques de Budget Stone, Sébastien Lecornu a annoncé faire passer le budget par 49.3. Il retrouve son amie Elisabeth Borne à la buvette de l'Assemblée.
Bonjour Elisabeth, salut pauvre naze. C'était bien la peine de nous emmerder, hein. 6 mois de négo et de baissage de froc devant le PS, tout ça pour faire un 49.3, j'aurais pu le faire moi-même. Bravo champion.
Tire sur sa clope. Parce que Sébastien Lecornu a fait beaucoup de concessions au Parti Socialiste pour éviter la censure, il a été très ferme. Il leur a dit, puisque c'est comme ça, vous l'aurez voulu, vous allez voir, je cède sur tout. Voilà. La prime d'activité pour les bas salaires, le repas à 1 € pour les étudiants. Alors les socialistes, ils se sont dit, il y a forcément un piège, il bluffe ce con. Et Lecornu a insisté, eh ben en prime, je vous offre un café. Même quand ils étaient au pouvoir, le PS proposait pas de budget aussi à gauche. Bref, Lecornu a fait plein de cadeaux aux socialistes pour les séduire. C'est un peu un sugar daddy pour les socialistes. Vous savez ce que c'est un sugar daddy? C'est un vieux qui couche avec des petites jeunes en échange d'un sac Chanel. Voilà. C'est une sorte de pédophile, mais pas radin. C'est pas trois bonbons et une camionnette, quoi. On met un peu des effets. Moi, je rêverais d'avoir un banquier comme Lecornu qui me téléphone en disant, oui, monsieur Demanche, je vous appelle pour votre découvert. Oh! Tu me parles pas comme ça, hein, sinon je change de banque. Oh, pardon, monsieur Demange. Excusez-moi, ne vous inquiétez pas, je rembourse tout de ma poche. Voilà. Et on vous offre une carte cadeau de 500 euros. C'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. C'est mieux
c'est
comme
vrai
ça.
Que c'est mieux. Pour le Parti Socialiste. Donald Trump a écrit une lettre au Premier ministre norvégien. Et dedans, il explique qu'il veut prendre le Groenland parce qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix.
Je suis débile, y a pas d'erreur. Je suis débile.
C'est une vraie chanson, c'est pas de l'IA. On se dit que l'Europe contre Trump, c'est David contre Goliath. En fait, c'est contre Gogoliath. Là, ça devient pathétique, débile, cette lettre. Il s'est passé d'ailleurs avec un truc marrant, avec le président des Trumpistes de France, Nicolas Conquer. Je sais pas si vous avez vu. Au début, il a vu ça. Il a vu que c'était complètement con. Donc, il a tweeté « Hallucinant, cette prétendue lettre de Donald Trump à la Norvège. Tout dans cette histoire flaire le faux à plein nez. C'est de l'IA. Le niveau est abyssal. Et comme prévu, des médias vont tomber dans le panneau. » Et quand il s'est rendu compte que c'était vrai, il a écrit « Je reconnais avoir douté. Mais après lecture attentive, rien ne me choque. Je souscris à tous les points. » Voilà. Le jour où Conquer va rencontrer Trump, Trump il va faire
« Oh, oh, une serpillière, c'est formidable, je suis ravi. »
Emmanuel Macron se montre très offensif face à Donald Trump sur la question du Groenland. Hein.
Oui. Oui, ce week-end, moi, j'ai vraiment cru qu'Emmanuel Macron s'était battu avec Donald Trump, avec son œil là, enflé et rougi. Il doit rien voir avec ça. On le savait sourd aux demandes des Français, mais aveugle, ça c'est nouveau. Si ça se trouve, ça fait longtemps. Tu sais, il est là. « Importez-moi les résultats des dernières législatives. » Ah bah super, le centre a gagné. Je nomme Bayrou.
Ah bah
monsieur le Président, c'était pas pour ça. Bref, Donald Trump nous menace. Alors ce matin, c'était de taxer les vins. Ce matin.
Ah bah super, on a gagné.
Bah oui, on a gagné. Ah bah on n'y voit rien. Ce matin, donc, Trump, il voulait taxer les vins à 200%. Sur CNews, ils en parlaient.
Ah oui.
Donald Trump veut taxer nos vins. Quelle est votre réaction, Elisabeth Lévy?
Eh ben moi, je suis patriote. S'il faut boire l'excédent, on boira l'excédent.
Notre président a demandé à l'Europe d'utiliser l'instrument anti-coercition. Alors ça, il paraît que c'est l'arme nucléaire économique. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais branchons-nous tout de suite sur BFM Business pour tout comprendre.
Banquier, bonjour. L'Union européenne examine son plan anti-coercition. Emmanuel Le Chypre, comment ça fonctionne? Allez, dépêche-toi, Chouminou, ta chronique. Mets bien ta cravate qui est si jolie.
Moumoune, on est à l'antenne. Alors, Edwige, l'UE sort sa grosse artillerie et s'apprête à mettre ses bourses dans la balance.
Et Emmanuel, la tension sur les marchés est si forte. Vous avez vu qu'à Davos, ça s'excite sur les plateaux d'émissions économiques. Tout le monde s'apprête à commenter la fessée qu'il faut le dire, certains méritent.
Oh, oui, Edwige, la fessée que l'économie française peut mettre à ceux qui sont méchants.
Mais moi, je suis méchante parfois.
Oh, Edwige, tout le monde va nous voir.
Mais non, grand bêta, viens, on est sur BFM Business, on s'en fout, personne regarde. Allez, fais sauter ma gaine, tu as ton sécateur.
On va les laisser, mais n'hésitez pas à vous informer sur BFM Business, c'est important de comprendre le monde d'aujourd'hui.
On retrouve aussi en podcast, je sais pas s'il faut le recommander. En tout cas, aux oreilles averties. Et en tournée partout en France, tiens, avec un nouveau spectacle à Reims, à Versailles, à Montpellier, à Toulon, à Épinal, un spectacle RMC. Il est 8h20 et vous êtes nombreux à réagir à cette menace, augmenter à 200% les droits de douane sur les vins et spiritueux français. Voilà la dernière trouvaille de Donald Trump. Bonjour David.
Oui, bonjour.
David, qui est chauffeur poids lourd à Duranus dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes chez vous, là?
Là, je suis dans Nice. Je suis au taf.
Voilà. Bon, vous êtes au taf, mais vous êtes au chaud. Comment vous réagissez à cette annonce de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux?
Ben, moi, je dirais, faisons pareil. Hein. On est des gros consommateurs de produits américains. Pourquoi on ne ferait pas pareil?
On augmente à 200% les tarifs douaniers sur les produits américains importés.
On n'a qu'à faire pareil. Le problème, c'est que on a des dirigeants qui ne sont pas super courageux. Et au sein de l'Union européenne, on est divisé. parce qu'on a chacun des intérêts différents. Donc j'ai peur que malheureusement ça fonctionne pas. Mais moi, faisons pareil. Hein. Les vins et les spiritueux, ça va pas trop nous gêner. Hein. Les consommateurs américains qui achètent du vin et des spiritueux,
Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'au fond, ils continueront à les acheter, même avec des très gros doigts de douane.
Exactement. Donc, faisons pareil. Hein. Faisons la même chose, les fast-food, tous ces trucs-là. Si vous voulez que ça reste en France, si vous voulez que les Français consomment, on augmente.
Mais est-ce que nous, on sera prêts à les acheter beaucoup plus cher? C'est aussi, évidemment, la conséquence et la question. Merci beaucoup, David, en tout cas, d'avoir réagi sur RMC ce matin. Il est 8h22. On y revient, évidemment, largement sur ces annonces de Donald Trump avec mon invité dans un instant sur BFM TV et RMC. C'est le monsieur économie du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame de Valère.
Député RN.
Bonne année encore,
tout à fait. Ne nous privons pas. Elle commence très fort quand même cette année, on peut le dire. Alors, il y aura sans doute un budget, finalement. 49.3 aujourd'hui. Vous-même, vous êtes député RN de la Somme, membre de la Commission des Finances. Le monsieur budget et économie du RN, je vais évidemment vous faire réagir à ce fameux budget qui atterrit donc aujourd'hui avec ce 49.3. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur les déclarations fracassantes de Donald Trump cette nuit, qui menace la France d'imposer donc des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette question-là? Et est-ce que notre économie, au fond, au moment même où on est en train de tenter de trouver un cadre budgétaire, n'est pas déjà fragilisée?
Oui, malheureusement, vous avez raison. Il faut prendre au sérieux ce que dit Donald Trump depuis le début. C'est vrai que le commentaire de la campagne de Donald Trump, de la première campagne, de la deuxième surtout, était assez consternant parce qu'au lieu de se préparer éventuellement à l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui voulait utiliser les droits de douane, qui voulait faire de la réelle politique la plus durement possible, on se retrouvait, il faut bien le dire, en tout cas le gouvernement de Monsieur Macron et le reste de l'Europe, désemparés face à quelqu'un qui assume des positions très dures pour ses alliés. Et on voit bien que ce soumettre, parce que M. Macron, sur le cas du Venezuela, a été très complaisant et en tout cas n'a pas du tout défendu la tradition d'habitude de la France sur l'indépendance nationale, ça n'apporte aucun avantage. Hein. C'est-à-dire que se soumettre comme le Danemark, qui était un des alliés les plus alignés sur les intérêts américains depuis la guerre froide, ça ne lui a pas apporté d'une protection particulière par rapport aux États-Unis.
Il faut toujours
défendre strictement ses intérêts, son indépendance et son honneur en politique internationale. Voilà, c'est-à-dire faire des compromissions en pensant que s'affaiblir ou s'appauvrir va vous donner des avantages, ça ne fonctionne pas. Donc il faut tenir et ça va sans doute effectivement être difficile pour une économie française qui a déjà des difficultés, parce que je pense que Donald Trump, sauf si la Cour suprême intervient pour mettre fin à ses droits de douane unilatéraux, hein, et la décision est imminente du côté des États-Unis, il va falloir tenir, parce qu'on ne va pas céder évidemment,
Ça veut dire quoi tenir concrètement, Jean-Philippe? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt, nous, à augmenter du même genre de proportion les droits de douane sur les produits que nous importons des États-Unis, quitte à ce que ça fasse monter l'inflation, parce qu'il faut quand même dire les choses. Fera monter l'inflation pour les consommateurs et les français.
Sur les importations américaines, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'inflation importée par rapport aux catégories de produits qu'on importe et aussi au bénéfice des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, le grand enjeu quand même de la balance commerciale États-Unis-France, c'est beaucoup de services numériques, beaucoup de logiciels, beaucoup de brevets, en fait, de valeurs intellectuelles. Au quotidien, vous ne consommez pas beaucoup américain, vous n'achetez pas beaucoup de Made in America. Voilà, vous allez peut-être consommer McDonald's et il y aura une licence, il y aura des royalties que McDonald's paie aux États-Unis. Par exemple, c'est beaucoup, vous voyez, une forme d'immatérialité.
Mais alors, du coup, on fait quoi? C'est-à-dire que, vous dites, il faut tenir.
Vous me demandez qu'il y aura de l'importation importée.
McDonald's, prenons l'exemple de McDonald's, évidemment emblématique, mais en même temps, la réalité, c'est que McDonald's en France, ce sont des entreprises françaises avec des patrons français, ce sont des franchises, ce sont des employés français. Est-ce que vraiment, on a les moyens de résister sans nous tirer à nous-mêmes une balle dans le pied?
Non, mais au contraire, finalement, parce que vous voyez, l'affaire de McDonald's, donc on verse des royalties essentiellement aux États-Unis. Et c'était l'enjeu de la fameuse fameuses mesures de lutte contre la fraude fiscale qu'on nous a tout reproché, là, que Madame de Montchalin, je l'ai encore entendu hier matin chez vous, nous a reproché d'avoir voté soi-disant une taxe de 16 milliards d'euros. Vous savez, bon, c'était pas une taxe, c'était une mesure de justice fiscale qui obligeait les entreprises américaines, les multinationales américaines, à payer leur juste impôt en France. Or, elles s'organisent massivement pour ne pas payer leur juste impôt
en France. L'idée, c'est d'abaisser le seuil. Ce que vous avez voté, oui, c'était un amendement de la France Insoumise, oui, avec l'idée de baisser le seuil de déclenchement de l'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales.
Exactement. Parce qu'en fait, elles ne paient pas le même impôt que les entreprises françaises, grandes ou petites, d'ailleurs. Donc, si on applique, c'est même pas une mesure de rétorsion, là. C'est juste la justice fiscale. Bon, on ne peut pas plus énerver les États-Unis. De toute façon, ils sont déjà sur une attitude hostile. Donc, appliquons des mesures de justice. D'ailleurs, c'était prévu par les règles de l'OCDE. Donald Trump s'est retiré l'été dernier de ces règles de justice fiscale. Et il faut appliquer ces mesures parce que ce sera bénéfique, en fait, pour la France et pour l'Europe d'une manière générale. Elle doit se réarmer. Vous voyez bien que quand Mme von der Leyen va à Washington, fait un accord extrêmement défavorable à l'Europe, pardon, en pensant que faire plaisir aux États-Unis.
Vous parlez du Mercosur?
Non, là, vous savez, de l'accord commercial qui est allé négocier à Mme von der Leyen, quand M. Trump a menacé déjà de rétorsion et de droits de douane extrêmement importants. Bon, Mme von der Leyen a été si faible sur les intérêts européens que l'accord que nous avons négocié était moins favorable que l'accord que la Suisse a obtenu. Donc, si la Suisse, que je respecte énormément, mais qui est un petit pays avec une petite population, arrive à négocier un meilleur accord parce qu'il ne lâche rien par rapport à von der Leyen, c'est que la stratégie européenne envers les États-Unis.
Il faut sortir le fameux bazooka, comme on dit, c'est-à-dire ces mesures de rétorsion. Pour vous, vous y êtes favorable et il faut le faire vite.
Oui, il faut le faire vite. Oui, mais l'Europe ne sait pas agir vite, mais là, il faut le faire vite. C'est ce qu'a dit Jordan Bardella sur le cas du Groenland. On ne peut pas laisser un de nos alliés se faire attaquer de cette façon. On ne peut pas laisser une part. C'est pas le territoire de l'Union européenne, mais c'est un territoire associé à l'Union européenne. Être voilà littéralement acheté ou littéralement envahi, même si c'est un allié, parce que ce sera une nouvelle étape dans ce nouveau désordre mondial où la loi du plus fort n'existe sans limite. Alors on va me dire oui, c'est naïf, il y a toujours eu la loi du plus fort. Oui, évidemment, moi je fais partie de l'école de la et le Rassemblement national fait partie de l'école de la réelle politique. On n'est pas iréniste, on croit pas que le droit résout toutes les solutions, mais le droit encadre la loi du plus fort, encadre les rapports de force et permet de réguler ce qui sinon ne l'est plus du tout. Il n'y a plus aucune limite. Vous voyez, ceux qui ont dit le Venezuela, c'est normal de se débarrasser de Maduro, c'est un dictateur, c'est un salaud. Oui, bien sûr, c'est un dictateur et on est mieux sans lui qu'avec. Mais vous voyez bien que dès qu'on franchit une limite, tout tombe les uns après les autres et on se comporte avec le gentil Danemark comme ils se sont comportés avec le méchant Venezuela.
Jean-Philippe Tanguy, pendant ce temps-là, 49-3 cet après-midi, engagé par donc Sébastien Lecornu. Est-ce que vous vous dites quand même au fond de vous, enfin ?
Non, pas du tout.
Pas du tout,
parce que je comprends. Hein. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais venu juste la veille de Noël, j'avais alerté à ma petite place hein, les Français en disant la stratégie de M. Lecornu est de vous épuiser. C'est de vous fatiguer, c'est de fatiguer l'opinion publique, c'est de faire traîner les choses, parce qu'en fait, ils auraient pu s'arranger bien avant en commission mixte paritaire avec les socialistes, s'ils avaient voulu, pour que l'inacceptable devienne tolérable. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens, moi je comprends, hein, quand vous avez un métier, une famille, des obligations, des difficultés financières pour boucler les fins de mois, voir les politiciens qui s'agitent à Paris, qui chamaillent, vous dites ils nous fatiguent, on n'en peut plus. Et donc on finit par dire, bon allez, on passe à autre chose. Mais le problème, c'est que on va voir la copie finale, mais je suis sûr qu'il y aura des hausses d'impôts. Voilà, je ne vois pas comment c'est possible que les hausses d'impôts ne concernent que les multinationales. C'est ce qui s'est passé sur la sécurité sociale. On a dit, dormez braves gens, il n'y aura pas d'impôts sur l'épargne. Et puis on a appris d'ailleurs hier que le PER, le plan épargne-retraite, serait bel et bien taxé comme le Rassemblement national.
L'augmentation effectivement des taxes sur l'épargne des Français, notamment le plan d'épargne-retraite avec la hausse de la CSG notamment. Mais vous aviez dit, Jean-Philippe Tanguy, et je vous cite, hein, vous aviez dit, il n'y a pas d'avancée dans cette Assemblée vu le poids du RN sans qu'on les vote et sans qu'on les veuille. On fait concrètement avancer certaines promesses que les socialistes eux-mêmes n'auraient pas pu faire respecter sans nous.
Alors j'avais dit ça sur les retraites. C'est-à-dire que nous, les retraites, on avait un engagement. On va pas se dédire. Nous, si on peut gagner des mois de vie et de retraite pour des gens qui travaillent dur, on va quand même pas le saboter.
Il y a eu des moments où ça vous arrangeait finalement que les socialistes poussent.
Non, c'est pas que ça nous arrange, c'est que c'est concomitant. On va pas, dire le contraire de ce qu'on dit aux élections pour embêter les socialistes. Sauf que nous, on ne voulait pas que ce soit payé par du déficit ou par des impôts. Voilà, on a proposé des économies. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur
mais les entreprises
nationale.
Pour vous c'était OK parce que on a effectivement parlé de cet impôt sur le bénéfice des multinationales que vous avez contribué à augmenter. C'était un amendement pourtant qui venait de la France insoumise, pareil pour un amendement sur les rachats d'actions. Là pour le coup, c'était de votre côté, ça avait fait hurler les entreprises. Un autre amendement du groupe LFI également qui instaurait, je cite, une taxe exceptionnelle sur les super dividendes, et là vous vous êtes abstenu sciemment pour que ça passe. Il y a quand même un certain nombre de points voulus par LFI dont vous étiez au minimum complice.
C'est pas qu'on est voilà, complice, c'est des mesures de
complice. Ce que oui. Je dis complice, c'est quand vous avez fait genre on vote pas pour, mais en même temps comme on s'abstient, on fait en sorte que ça passe.
En fait, on avait notre propre mesure pour lutter contre les abus, certains abus des dividendes. Mais nous, on n'est pas des hypocrites. Voilà, on n'est pas des faux culs. C'est-à-dire que s'il y a une mesure,
c'est pas hypocrite ça de pas non, voter, non, mais en même temps tout. De faire en sorte que
non,
ça passe.
Mais non, parce que vous avez une mesure qui dans la philosophie est proche, techniquement est différente. Donc vous dites, bon, philosophiquement, je ne vais pas vous dire que je suis contre la taxation des super dividendes, des surdivins, puisque c'est dans le programme de Marine Le Pen et de tous les députés qui ont été élus. Donc ça, c'est l'attitude de la gauche ou des autres partis, de dire, oui, bon, le RN, ils ont raison, on n'est pas d'accord sur une virgule, donc on vote contre. Les gens supportent pas ça. Sincèrement, je pense qu'ils ne le supportent pas, et je pense qu'ils sont d'accord pour qu'on vote selon la philosophie et pas selon les partis. Et par contre, la condition de ces votes, Madame de Malherbe, c'était de baisser massivement les impôts sur les classes moyennes et les
vous dites, on attend la copie. Vous pensez encore que il est possible que les impôts sur les classes moyennes, c'est ce qu'affirmait hier à ce micro la ministre du Budget. Elle a dit les classes moyennes seront épargnées.
Bah, j'attends de voir la copie finale. En tout cas, sur la sécurité sociale, elles n'ont pas été épargnées.
Si tel était le cas, est-ce que vous pourriez encore ne pas voter la censure ?
Ah non, mais on votera forcément la censure parce qu'il y a le deuxième aspect de tout cela, c'est que les impôts n'ont pas baissé, hein, puisque la différence avec la gauche, évidemment, c'est que nous, les quelques hausses d'impôts que l'on soutient étaient contrebalancées par des baisses d'impôts massives qui faisaient que le solde était de 20 milliards, le solde de baisse d'impôts. Et le deuxième aspect, c'est l'état du déficit. Alors, on nous dit maintenant, vous savez, c'est toujours pareil, on présente des choses totalement délirantes et après, on a l'impression qu'en reculant, c'est moins pire. Donc, on dit, oui, le déficit était à 5,7% du PIB. Ah, c'est pas grave, il va descendre à 5. Mais 5% du PIB, enfin, Madame de Malherbe, vous vous souvenez des débats il y a 10 ans, passer les 3%, les 3,5% en période de crise économique, c'était déjà scandaleux. Et maintenant, on nous présente 5% comme une
hors
mesure...
Hors crise économique.
Hors crise économique, comme une mesure de bonne gestion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dette française est en effet boule de neige. C'est quoi une boule de neige? Vous lancez la boule de neige, et avec le temps, elle grossit, grossit, grossit. Donc, la dette, c'est ça aujourd'hui. On grossit de 70 milliards d'euros par an. On s'endette à des taux.
Sans rien faire. C'est ça que je voulais dire.
Sans rien faire, c'est moins qu'on puisse dire, malheureusement. Avec des taux d'intérêt très importants qui font que la dette va étouffer les services publics de la France. On est aujourd'hui à des intérêts de la dette qui coûtent 75 milliards.
Oui, mais le fait que vous censuriez ce budget ne va pas rendre les choses plus faciles.
Mais ça veut dire qu'on accepte l'inacceptable. Nous, on n'accepte pas l'inacceptable.
Mais votre censure ne va pas pour autant rendre la France plus vertueuse.
Mais à cause des
LR. Ça aura un autre effet, c'est qu'il n'y aura pas, du coup, de budget. C'est ce qui fait dire à Sébastien Lecornu que vous êtes des saboteurs et des artisans du chaos.
Mais ça, c'est pas possible. Vraiment, j'ai été très choqué, vraiment, par le mensonge de Monsieur Lecornu. Pourquoi? Les députés RN, je le regrette.
Il dit que c'est de votre faute, oui, RN et LFI.
Non, mais c'est toujours de notre faute. De toute façon, tout ce qui arrive en France est notre faute, alors qu'on n'a jamais gouverné. C'est comme un peu particulier.
Mensonge, dites-vous.
Oui, c'est un mensonge. Pourquoi? Les députés RN, on est 25%. Voilà, c'est tout. On est 25% de l'Assemblée nationale et la petite coalition là de Monsieur Lecornu, ils sont 52%. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour les imbéciles, ce qu'ils ne sont pas. Si ils s'étaient entendus, ils battaient le RN. Si le RN a pu faire passer des choses, c'est que des gens étaient plus mobilisés qu'eux, hein, parce que par exemple les économies sur les collectivités territoriales, que tout le monde trouve scandaleux, alors qu'évidemment nous on dit il faut baisser les dépenses des régions et des intercommunalités, on le vote et après on nous le reproche, eux ils votent la même d'économie et ils sont incapables d'assumer quoi que ce soit. Ce jour-là, le groupe Rassemblement National à lui seul était plus présent que tous les autres groupes de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous rendez compte que des gens qui disent oui c'est très grave le budget, ils sont même pas là pour siéger, pour honorer leur mandat, les députés de gouvernement ne sont pas là et après ils disent que le budget c'est très grave. Donc, ils ont été incapables, Madame de Malherbe, aussi bien à l'automne, en hiver qu'aujourd'hui, d'être suffisamment nombreux pour gagner le moindre vote. Le moindre vote, il n'y a pas un seul vote, on en revient à votre phrase, qui n'était pas arbitré par le RN. entre la gauche et les macronistes et LR, parce que c'est nous qui sommes présents et qui siégeons de manière
plus nombreuse. Mais à la fin, ça veut donc bien dire que vous avez une part de responsabilité, vous ne pouvez pas vous en défausser.
Ah mais nous, on a une responsabilité, mais on assume nos votes. Vous ne m'avez jamais reçu, ou d'autres responsables du Rassemblement National, en disant « Ah oui, on a voté ça, on n'est pas d'accord, on n'assume pas ». On assume tout. Moi, j'assume des économies sur les régions, sur les intercommunalités. Par contre, je n'assume pas que Mme Montchalin vienne mentir à votre antenne en disant qu'on a voté contre les petites communes. Parce que vous voyez, cette attitude qui consiste à utiliser le malheur et les difficultés des petites communes pour protéger les barons, les métropoles, les grandes régions qui n'ont aucune difficulté, qui peuvent faire des économies, c'est insupportable. Parce que c'est toujours ce qu'ils font. Là, ils vont faire passer le budget en disant on augmente la prime d'activité pour les personnes qui ont des salaires modestes.
Ça vous êtes pour quand même, non ?
Ben oui, ben oui.
Ben bien oui, sûr, ce que j'allais vous dire.
Oui, mais qui peut être contre ? Sauf que, bien sûr, quand, le repas à 1€ pour les étudiants, moi j'ai été étudiant, il y a des jours où effectivement on ne mange pas sa faim, c'est vrai, quand on a des difficultés. Qui est contre ? Ok ? Mais donc on doit accepter le fait qu'ils fassent pas d'économie, que le déficit soit complètement hors contrôle.
C'est quoi ? C'est une manière de moralement vous faire un chantage ?
Et bien sûr. Madame de Montchalin nous avait fait exactement le même coup à l'automne pour sa loi de fin de gestion. La loi de fin de gestion, je suis désolé, c'est un terme technique. C'est la loi qui acte la fin de l'année budgétaire. Donc il nous dit, oui, bah, il y a 25 milliards de hausse d'impôts. Ah, vous devez accepter parce que sinon on peut pas payer l'allocation à l'adulte handicapé. C'est ce qu'elle nous a dit mot pour mot, tout le monde peut vérifier, c'était public. Vous vous rendez compte du niveau de cynisme, dire oui, vous devez accepter que le déficit soit dans le décor, qu'on augmente les impôts, parce que sinon on peut pas payer l'allocation adulte handicapé. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement, en fait ?
Le budget de la défense, vous le disiez à l'instant lorsqu'on parlait de Donald Trump et de la question du Groenland, vous disiez il faut que la France se réarme, il faut que l'Europe aussi se réarme. Vous le savez, ils le disent, si ce budget n'aboutit pas, le budget de la défense, qui en est l'un des sous-chapitres, n'aboutira pas non plus. Est-ce que de ce point de vue-là, vous n'avez pas une responsabilité en décidant de censurer ce gouvernement sur le budget ?
Non, parce que sinon on ne peut pas céder à un chantage. C'est tout, c'est simple. Ça veut dire que il faudrait tout accepter, y compris les choses inacceptables qui abîment la France, parce qu'il y a une hausse du budget militaire. Nous, on a toujours soutenu les hausses du budget militaire, mais c'est au gouvernement d'être responsable en ne présentant pas des mesures de déséquilibre. Des mesures de déséquilibre, Madame de Malherbe, qui correspondent à ses engagements. Ils ont été élus sur le redressement des finances publiques, et après, ils nous reprochent à nous de vouloir tenir les finances publiques.
Pour vous, les 5%, c'est-à-dire lorsque Amélie de Montchalin affirme ici même hier que ce budget respectera effectivement 5% de déficit, ça n'est pas suffisant.
Et c'est pas du tout suffisant, puisque la dette continue d'augmenter. Ça veut dire que l'année dernière, vous recevrez celui qui sera ministre des comptes publics ou elle, hein, si c'est Madame de Montchalin encore, qui viendra pleurnicher sur le fait que les intérêts augmentent. Ils augmenteront là. C'est mathématique. C'est imparable. Aujourd'hui, ce budget fait que l'année prochaine, on votera plus d'intérêts de la dette qu'aujourd'hui.
Autre point, la question des impôts des plus riches. Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie, affirme que des milliers de contribuables très fortunés ne payent pas ou presque pas d'impôts sur le revenu. La ministre du budget dit c'est faux. Ils payent tout de même une partie, et ceux qui effectivement étaient cachés dans une holding ou mélangés à des biens soi-disant professionnels pour échapper à l'impôt sur le revenu, nous les avons traqués et désormais ça ne sera plus le cas. Qui dit vrai ?
Ah bah c'est Monsieur Lombard qui dit la vérité. Et Monsieur Coquerel, le président de la commission des finances, hein, et il est pas de mon bord politique, hein, mais je suis obligé de reconnaître que moi, s'il dit la vérité, il dit la vérité. Et c'est pas qu'il paie rien, c'est qu'il paie pas, il paie une somme dérisoire par rapport à ce qu'il devrait payer. Et on en revient à votre question sur la justice fiscale. Nous, on n'a pas voté des mesures, à part les rachats d'actions, d'augmentation des impôts. C'était des mesures, comment dire, qui améliorent la fiscalité pour qu'elle soit plus juste, plus durable et qu'elle soit acceptée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui paie l'essentiel des impôts ? C'est pas effectivement les milliardaires les plus aisés des Français, c'est les classes moyennes supérieures. Voilà, c'est ceux qui, aujourd'hui, qui paient vraiment beaucoup d'impôts par rapport à ses revenus.
Proportionnellement,
c'est les classes moyennes. Vous êtes médecin, vous êtes notaire, vous êtes avocat. Alors oui, vous gagnez bien votre vie. Vous n'êtes pas à plaindre par rapport, évidemment, à des gens qui ont le SMIC ou des revenus peu modestes. Mais vous payez vraiment beaucoup d'impôts. Et c'est un problème parce qu'effectivement, les plus favorisés en paient moins. Il faut rétablir cette justice fiscale.
Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen sera à la barre aujourd'hui. On a l'impression que sa nouvelle défense, c'est en quelque sorte faute avouée, à moitié pardonnée.
Non, je crois pas. Je crois que voilà, moi je suis pas au procès, hein, donc je reste avec beaucoup d'humilité là-dessus. Que Marine Le Pen et les autres provenus d'ailleurs ont les moyens de se défendre et ont l'impression de pouvoir donner leurs arguments et d'être entendus. Voilà que le procès se passe de manière équitable.
Vous pensez que ce sera le cas ?
Bah pour le moment, c'est le cas. Voilà, ça a l'air d'être le cas. Moi, je n'y suis pas, mais les retours que j'ai, c'est que c'est le cas, c'est qu'on peut s'exprimer, on peut défendre des arguments, on doit se justifier évidemment sur un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment un nouveau procès avec des nouveaux magistrats, aussi bien juge du siège que procureur. Et visiblement, en tout cas, les débats sont de bonne tenue.
Vous êtes donc plus confiant, peut-être sur l'issue ?
Oui, je suis plus confiant, mais j'ai toujours été confiant, vous le savez, parce que j'interviens régulièrement chez vous et je vous en remercie. Moi, je pense du fond de moi-même, j'ai l'intime conviction de Marine Le Pen est innocente, donc j'ai toujours été confiant sur le fait qu'elle arrive à prouver son innocence.
Merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir répondu à mes questions.
Bonne
député
journée.
RN de la Somme, membre de la commission des finances, vous évoquiez à l'instant Éric Coquerel, LFI, mais en disant qu'il avait en l'occurrence raison. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, était mon invité ce matin. On a parlé budget, qui passera donc par le 49-3. Un budget où Sébastien Lecornu a fait de nombreuses concessions aux socialistes. Bonjour François Hollande.
Ça va, poupée? Hey, je t'ai écouté avec ton Jean-Philippe Tanguy, initial JPT. Hein, budget, Mercosur, Groenland, il a réponse à tout, le chat JPT. C'est bon, là, et sinon, t'as suivi le gamin de Matignon, hein? Mr Bean, les gros sourcils, hein, il s'est couché devant le parrain, il a vu qui c'était Raoul, hein, mon Lecornu, il a vu mon charisme, il a été intimidé, je comprends, il a voulu s'épargner des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown.
Vous êtes sûr, franchement?
Si je suis sûr, c'est pas Olivier Faure, c'est ou Boris Vallot qui l'ont impressionné, donc forcément, par déduction, j'imagine que c'est moi.
Oui, ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir un budget très à gauche, hein.
Bah oui, t'as vu l'influence du patron, on a pu y aller à fond sur la gauche, on s'est régalé. Oui. Puis on s'est régalé d'autant que si on creuse trop la dette, on s'en fout, les responsables, ce sera jamais nous. Et c'est marqué Lecornu. Donc on le fait danser là-bas, plein pouf. Je crois que j'ai attrapé la maladie de Jean-Philippe Tanguy. Oui, on le fait danser, l'amateur de Pulmou. Hein, c'est, vous avez compris, ce
pulmou, c'est,
oui, c'est Lecornu, oui, c'est ma marionnette. J'ai mal au doigt à force de tirer sur les fils de ma petite marionnette.
Bon, il y a quand même, attention, un risque de censure, hein. Olivier Faure a dit qu'il attendait de voir comment ce budget serait financé. Qu'est-ce que vous avez prévu sur le côté financement?
Le côté que
oui, financement, oui, quand même,
financement,
de tout ça.
Oui. Ouais, oui, non, mais là c'est
qui paye.
Là c'est pas, oui, mais là c'est pas moi, c'est Lecornu qui s'occupe de
ça.
C'est son boulot. Mais attendez, Mme de Malherbe, vous êtes quand même expérimenté. Déjà mes budgets, je ne les finançais pas, c'est pas pour financer ceux des autres.
Merci monsieur Hollande, je vous connais bien là. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres.
Oui. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Jean-Philippe Tanguy était là et j'ai envie de féliciter Jordan Bardella pour son idylle avec la princesse Maria Carolina de Bourbon, des du Sicile de Palerme. Et non, ça s'arrête là. Vous voyez, encore une preuve qu'au Rassemblement National, pardonnez-moi de vous le dire, cher Apolline Malherbe, ils n'ont rien contre les étrangers. Allez, nous allons parler économie. C'est aujourd'hui que s'ouvre le 56e Forum économique mondial de Davos en Suisse. Et on va écouter la réaction de François Ruffin qui est avec nous. Monsieur Ruffin.
Davos, c'est quoi Davos? C'est le forum mondial de l'économie mondiale. Non, c'est le forum mondial de l'entre-soi, Mme de Malherbe. Le forum mondial des patrons, des milliardaires qui, sous prétexte d'assister à deux réunions, passent en note de frais tous leurs sports d'hiver. Moi, je dis, c'est les blindés font du ski. Vous croyez que les ouvriers ont les moyens de s'acheter, oui, c'est la raclette, d'acheter un chalet en Suisse ou de se louer des skis? Non, les ouvriers, justement, on en parlait, ils peuvent à peine se payer une tranche de fromage à raclette Marc Repère. Moi j'ai un rêve, Palerme, c'est que Donald Trump confonde la Suisse avec le Groenland, qui bombarde Davos, qui raille de la carte ce repère de riches, finit de se faire exploiter, et on épargne le Groenland, parce que ils n'ont rien demandé, les Groenlandais. Ça reste l'Europe. On garde nos glaçons. On garde nos phoques.
Ah oui.
Et à Trump, il faut oser lui dire à Trump, fuck you. Oui, parce que je dis, ça suffit.
Merci beaucoup, François Ruffin. Merci beaucoup.
Oui, et surtout, pardon à nos auditeurs pour tout ce charabia gauchiste qu'ils viennent entendre à l'instant, mais c'est l'ARCOM, que voulez-vous, qui nous impose cette forme de parité dont on se passerait aisément.
Oui, on le pense bien. Merci beaucoup, Pascal Praud. Après plus de 25 ans de négociations, l'accord du Mercosur a été officiellement signé. Jérôme Bail, l'un des leaders de la contestation agricole, voulait réagir. Bonjour.
Oui, bonjour, maman. Le Mercosur a été signé, mais je vous le dis, pour nous, le combat n'est pas fini. Nous allons poursuivre nos actions, car nous avons le soutien, nous le sentons de la plupart des Français. Et d'ailleurs, je sais que même vous, dans le studio, je sens bien que vous êtes solidaires, parce que on est un peu les mêmes, on fait un peu le même métier.
Ah oui.
Et on se lève tôt le matin, 3-4 heures du matin. Nous, c'est pour traire les vaches. Vous, c'est pour en tirer un maximum. Mais vous, c'est pareil, pour en tirer un maximum de votre invité. Mais parfois, il
ne
répond pas toujours.
Non.
Quand vous avez posé des questions à Jean-Philippe Tanguy sur le procès Marine Le Pen, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de lait qui sortait. Et on a senti que c'était un peu frileux. Voilà,
donc on fait le même merci. Merci beaucoup, Jérôme Bail. C'était bien de vous entendre. Rachida Dati a annoncé.
Mais je suis venu quand même.
Mais ça fait plaisir. Rachida Dati a annoncé ce dimanche qu'elle allait quitter très rapidement le gouvernement pour se consacrer aux municipales.
Oh non. Rachida Dati qui va coûter quitter le gouvernement. Comme c'est dommage, je ne suis que tristesse et déception.
Oh, sérieusement, Stéphane Bern ?
Bien sûr que non. je ne comprends même pas comment j'ai pu y croire. Non, c'est parce que c'est vrai que j'ai des talents d'acteur depuis qu'on m'a vu dans ce téléfilm policier. J'ai incarné un policier. J'ai même sorti un pistolet à un moment donné, j'ai fait pam-pam. J'étais tellement crédible. Je pensais qu'on était en janvier, mais en fait, c'est Noël. Rachida Dati va se barrer. Exactement ce que je voulais comme cadeau.
Non, c'est pas très sympa, vous l'aimez pas ?
Écoutez, j'ai rarement entendu la victime d'un pickpocket lui tresser des louanges. Mais oui, mais quand même, je prends cette image parce que cette chipie de Rachida m'a quand même volé mon portefeuille de ministre. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, j'ai de nouveaux espoirs pour le récupérer. Voilà, à moi le ministère de la Culture, les dorures de la rue de Valois, les berlines avec chauffeur, les soirées à décorer Beyoncé. Et puis surtout, fini de présenter des émissions à la con sur les plus belles fêtes traditionnelles des villages français.
Oh ben non, c'est quand même plutôt sympa de faire ça.
C'est sympa, c'est agréable, mais de n'importe quoi. Je vois que c'est pas vous qui vous tapez le trajet en Kangoo jusqu'à Quimperlé. Hein. Tout ça pour couvrir la fête de la crêpe bretonne à la farine sarrasine, alors que j'en ai rien à foutre de tous ces gueux.
Oh non.
Mais non, je fais semblant de m'intéresser pas à Pauline Allon. Mais oui, parce que je suis tellement avec l'image de couronne et paillettes que si je veux avoir la culture, faut que je bosse mon côté peuple. Mais j'y suis presque. Vous savez quoi, cher Alain Marchal ? La semaine dernière, pour la première fois, j'ai mis des bottes en caoutchouc.
Oh, on vous sent pour votre vie. Merci beaucoup. Merci Nicolas Cantelou. Et Nicolas, d'ailleurs, vous avez participé hier au grand concert des Enfoirés, concert qu'on couvrira en mars à la télé. Donc, je voulais aussi le saluer. Face à Cantelou, qu'on retrouve dès demain, 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Alain Marchal vient de rentrer dans ce studio. C'est pas
les GG avec, dans un instant, un trio composé de Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie Joël Dagosséry, la coach de vie sera aussi avec nous, Yves Candebord, le cuisinier. On parlera du 49-3 à la mode, le cornu, de ce budget qui, visiblement, d'après les chefs d'entreprise, va planter l'économie. Et ça, vous viendrez le commenter avec nous. Au 32-16, bien évidemment, on sera avec Charles Alloncle, le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Elle a repris ses travaux.